Chronologiquement, ça ne se présente pas de cette manière-là. Chronologiquement, Rosh Hashanah arrive et on a l'impression que Kippour est une espèce de second Rosh Hashanah où on peut réparer, on peut réparer parce qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, on a ces fameux 10 jours de tshuva possible qui permettent de régler les problèmes. Alors qu'est-ce que les problèmes à régler? C'est évidemment la situation qui est créée par le jugement de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, bien que dans la Torah rien ne soit écrit à ce sujet-là, Rosh Hashanah c'est néanmoins un Yom Hadin. Et on voit dans la Mishnah de Rosh Hashanah, que ce jour-là, tout le monde passe devant Hachem. Et donc chacun est en quelque sorte jugé à ce moment-là. À titre personnel, on avait dit que l'essentiel du jugement à Rosh Hashanah, c'était un jugement qui mesurait d'une certaine façon notre capacité à reconnaître Hachem comme roi. Ok. Alors, voilà, le jugement a eu lieu, et il y a trois situations, comme on le sait, comme la Gemara le dit. Il y a trois situations. Il y a ceux qui ont été jugés zakaï, c'est-à-dire des gens qui ont bien passé le jugement, qui sont, sont inscrits le chayim, qu'il faille entendre Chaim par rapport à Olam Abba ou bien par rapport à ce monde-là, on ne va pas entrer maintenant dans ce sujet-là. Il y a les autres qui ont complètement raté, et eux sont écrits le Mita. Et puis il y a au milieu ceux qui sont appelés Benonim, c'est-à-dire ceux qui sont les moyens. Et d'après Rambam, les moyens, ceux qui sont moyens, d'après Rambam, ce sont ceux qui ont autant de mitzvot que d'averot. C'est-à-dire qu'on met sur les deux plateaux de la balance, d'un côté les mitzvot, de l'autre côté les averot, avec évidemment une façon de pondérer les unes et les autres. Et puis, on imagine qu'il y a des gens qui sont en équilibre parfait. C'est sûr que quand on le dit comme ça, ça a l'air de ne concerner pratiquement personne. Comment faire pour être exactement à la limite? Mais par ailleurs, Chazal disent, c'est un autre Chazal qui dit que on est jugé tous les jours et qu'on doit, on ne connaît pas le résultat évidemment du jugement, mais on doit se considérer comme Benoni. Parce que se considérer comme Benoni, c'est la position la plus responsable. Parce que si les carottes sont complètement déjà cuites, si on est déjà du côté Zakaï ou du côté Khayav, il n'y a plus rien à faire. Donc tout est à faire seulement pour les gens qui sont au milieu. Et donc, d'après ce deuxième Chazal, c'est tout le monde doit se considérer comme si... effectivement, il était concerné par cette définition de celui qui est Benoni. C'est-à-dire que, a priori, si on est Benoni et si on a 10 jours pour rattraper les choses, alors on pourrait penser que ce qu'il faut faire, c'est durant ces 10 jours-là, il faut faire des mitzvot. Bon. Il y a un Rambam qui dit effectivement la chose de la manière suivante. Il dit qu'en Israël, tous les Bnei Israël ont pris l'habitude dans cette période-là, à cause de cette situation de Benonim, tout le monde a pris l'habitude de faire des mitzvot pendant des mitzvot particulières ou d'être particulièrement attentif, particulièrement zélé, etc., dans les mitzvot qu'on fait dans les Aseret Adibrot. Pardon, dans les Aseret et les 10 jours de Tshuva, qui correspondent bien sûr au Aseret Adibrot, mais bon. Alors ça, c'est un Rambam. Mais il y a un autre Rambam qui est en contradiction complète, a priori, avec celui-là, qui dit qu'en réalité, les choses sont complètement différentes, c'est-à-dire que pendant les jours de Tshuva, on a l'occasion de faire Tshuva, mais tout le problème, c'est est-ce que pendant ces 10 jours-là, on va faire Tshuva? C'est seulement ça qui compte. Et c'est très très logique, parce que les comptes sont arrêtés à Rosh Hashanah. Et donc les mitzvot qu'on va faire dans cet intervalle de 10 jours entre Rosh Hashanah donc et Kippour, les mitzvot qu'on va faire, elles appartiennent à la nouvelle année. Elles n'appartiennent pas du tout à l'année sur laquelle portait le jugement. Et donc il n'y a aucune raison que ces mitzvot modifient en quoi que ce soit le jugement qui a été porté à Rosh Hashanah. Alors il y a justement une singularité, c'est cette histoire de tshuva. Alors la tshuva, vous me direz, mais la tshuva aussi c'est une mitzvah, d'après certains en tout cas, et donc ça ne change rien. Alors c'est un peu différent, parce que la tshuva, c'est pas une mitzvah comme les autres. C'est une mitzvah qui a un impact sur le passé aussi. Il est dans le processus de tshuva, les trois temps sont en quelque sorte impliqués. Bien sûr, il s'agit de prendre conscience qu'on a fait une faute. Donc, et au moment où on prend conscience et où on le vit à ce niveau-là, on se dit, ah ben, je voudrais bien ne jamais avoir fait cette faute. Et donc on peut regretter la faute qui a été commise. Et le grand ridouche, on va expliquer comment on peut un peu le comprendre. Le grand ridouche, c'est qu'effectivement, je peux, avec ce mouvement de regret sur les fautes qu'on a faites, je peux obtenir d'annuler les fautes en question. Et puis le futur est évidemment là, parce que il s'agit, pour bien montrer que on se détache de la faute qui a été commise, ben on prend des mesures pour ne pas retomber dans les ornières dans lesquelles on était tombé. Donc ça, c'est pour le futur. Alors, sur la question de savoir comment est-ce qu'on peut imaginer que de faire tshuva, ça serve à quelque chose. A priori, quand vous regrettez quelque chose, ben la chose, elle, vous regrettez, mais bon, mais c'est fait. Et donc là, il faut utiliser le fait que Hazal nous ont enseigné que la tshuva, elle a été créée avant la création du monde. Si vous préférez, le monde a été créé dans quelque chose qu'on pourrait appeler un environnement de tshuva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos actions dans le monde qui est créé, disons, dans cet environnement-là, nos actions ne sont pas définitives. Nos actions sont des actions qui, pour qu'elles deviennent justement définitives, elles doivent être confirmées. Un peu de quelque chose du style « je persiste et je signe ». Et donc, quelque part, quand on dit qu'on peut par le regret, on peut effectivement réparer, c'est-à-dire annuler les fautes, ben, ça vient de cela, ça vient de ce que, d'une certaine manière, je ne confirme pas. Je ne m'identifie pas avec l'auteur de ces fautes. Et d'une certaine manière, le Ramak, on avait vu ça une fois quand on a parlé un peu du Tomer Dvorah, le Ramak lui il explique que, et le Rambam le reprend, on est autre. Après la Tshuva, on est autre. On est quelqu'un d'autre. Ah, l'action qui a été faite, ben maintenant, elle est dans un dossier qui est un dossier marqué X. Le dossier, il était marqué Toto. C'était Toto qui avait fait la chose. Et maintenant, Toto, il ne se reconnaît pas dans ce qui a été fait. Et donc, le dossier devient un dossier classé sous X. Et on ne trouve pas le X, évidemment. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent nous aider à comprendre comment la tshuva agit rétroactivement. Alors, c'est un peu plus compliqué, parce que les Chachamim nous disent que la tshuva, il n'y a pas qu'une seule façon de faire tshuva. Bon, on parle de la tshuva, la mitzvah de tshuva, mais en réalité, la tshuva, on peut dire que c'est quelque chose qui est vrai de toutes les mitzvot. On peut faire les mitzvot par yira, et la tshuva par yira aussi. C'est-à-dire, on peut agir conformément à ce qu'Hachem a demandé qu'on agisse. Hachem veut qu'on agisse d'une certaine manière, on peut agir de cette manière-là, par yira, c'est-à-dire par crainte. Crainte, ça a des niveaux différents, ça peut être la crainte du bâton, c'est-à-dire on fait les mitzvot parce que on a peur de devoir payer cher les averot. On a peur des suites, et donc on fait la mitzvah. Mais il y a toute une gradation, et peut-être au sommet de la yira, on peut dire qu'on fait les mitzvot par yira, mais par la yirat aromemut. La yira de l'élévation d'Hachem, si vous voulez. On prend conscience de la hauteur d'Hachem, et du coup, et de la grandeur, de la puissance, etc. Oui, voilà. Pas du tout, parce qu'il va me faire quoi que ce soit, mais voilà, c'est quelque chose qui m'impose, qui s'impose à moi, qui m'impressionne. Et c'est à ce titre-là qu'on fait les mitzvot. Ça, c'est la façon, yira, de faire les mitzvot. Toutes les mitzvot, y compris la mitzvah de tshuva. Et puis, il y a une autre façon de faire toutes les mitzvot, y compris la mitzvah de tshuva, qui s'appelle ahava. Les faire par amour. Par amour, c'est-à-dire par amour d'Hachem, comme on fait les choses, même dans la vie, par quelqu'un, on est amené à faire certaines choses. On craint rien du tout, c'est pas de la crainte, c'est par amour. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce que je pourrais ne pas faire ce que la personne aimait me demande de faire. Par amour, bien sûr, je vais le faire. Là, en l'occurrence, on peut aussi, par amour d'Hachem, faire les mitzvot. Alors, probablement que dans toutes les mitzvot, les avoir faites par yira ou par amour, ça n'a pas le même impact. Mais bon, pour ce qui nous concerne, dans la mitzvah de tshuva, l'impact est vraiment différent, et il est formulé de la manière suivante. On dit que quand la tshuva est faite par yira, alors d'une certaine manière, elle a comme effet, cette tshuva, d'annuler la faute. Comme je vous ai dit, la faute n'est plus dans le dossier de Toto en question. Elle n'est plus là. Par yira, ici Toto ne s'identifie pas avec ce qui a été fait, il est un autre. Et personne n'assume la faute qui a été faite. Alors, qu'est-ce qui advient de cette faute? C'est déjà un autre sujet. Et donc, les mitzvot, pardon, les averot qui ont été faites, eh bien, ne sont plus comptabilisées. Et du coup, celui qui était Benoni, ben, il a moins de averot, et du coup, le plateau des mitzvot va devenir plus lourd. Et donc, il va tomber un peu, en quelque sorte, du côté des Zakaïm et du côté de la vie, et pas du côté de la mort. Ça, c'est si on fait la tshuva, mais ira. Alors, quand à la tshuva, mais ahava, c'est alors tout à fait extraordinaire, littéralement, c'est que la tshuva, mais ahava, non seulement elle annule les fautes, mais elle transforme les fautes, en mitzvot, en fait. C'est-à-dire que si on a fait une faute qui nous amènerait à un niveau moins 5, eh bien, tout à coup, avec cette tshuva me'ahava, on se retrouve au niveau plus 5. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Comment est-ce que des averot peuvent devenir des mitzvot? Mais si on réfléchit un peu, bien que ce soit pas, je suis pas en train de dire exactement comment ça fonctionne, mais on peut considérer que tiens, on a un peu une idée des choses de la manière suivante. Quand on a fait des bêtises, d'accord, une façon intelligente d'envisager le futur, l'après la faute, c'est d'en tirer les conséquences. Et si je tire des conséquences, j'analyse, je sais un peu comment est-ce qu'on a pu faire cette faute-là, qu'est-ce qui nous a amené, quel était le manque de vigilance, ou par quoi est-ce qu'on s'est laissé séduire, etc. Et du coup, on a gagné quelque chose, c'est que dans une nouvelle épreuve, si maintenant le Yetzer Hara vient me proposer quelque chose qui ressemble à ce sur quoi la personne s'est cassée la figure, eh bien il aura du répondant. Il sera peut-être pas si facile pour le Yetzer Hara de le séduire, de le pousser à faire une avéra. Donc on aura gagné quelque chose, d'accord, comme si cette mitzvah, enfin, comme si cet avéra était devenu une mitzvah, avec ce principe général qui est que mitzvah gorer est mitzvah. Qu'une mitzvah, elle entraîne une mitzvah. Donc maintenant, cet avéra qui est devenu mitzvah, elle a une puissance d'entraînement, elle va nous aider à faire des mitzvot, elle va nous aider à faire mitzvot dans le registre, en fait, dans lequel on s'était cassé la figure, dans lequel on avait fait les averot. Donc ça, c'est le problème de la tshuva. Disons, on a essayé de dire quelques petites choses sur la tshuva. Alors, étant donné que la mitzvah de tshuva, elle a cette puissance là, qui consiste à modifier la situation. On a dit de plusieurs manières, mais en tout cas, à minima, si on fait tshuva avec les motivations les plus élémentaires, quoi, celle de simplement la peur du bâton, peu importe. C'est peut-être pas glorieux, mais c'est efficace. Et donc, cette tshuva, elle va modifier complètement le tableau et faire en sorte que on soit devenu, durant cette période de 10 jours de tshuva, consacrée à la tshuva, On est devenu meilleur et on est tombé du bon côté, en fait. On est du côté Zacharie, du côté de la vie. Alors, le Rambam dit, donc dans une halakha, il dit que après le psak din, après la décision qui était prise à Rosh Hashanah, si quelqu'un a été classé parmi les Benonim, ceux qui sont en équilibre, qui sont à l'équilibre et qui doivent, il faut trancher, il faut décider si on tombe à gauche ou à droite. Alors le Rambam dit, effectivement, qu'il n'y a que la mitzvah de Tshuva qui compte à ce moment-là. Parce que c'est la seule qui a un impact sur les... Sur ce sur quoi on a été jugé à Rosh Hashanah. Puisque toutes les mitzvot qu'on pourrait faire, c'est les mitzvot qui vont être au compte de la nouvelle année. Donc évidemment, elles ne peuvent pas avoir d'impact sur le jugement passé, enfin, sur le jugement qui a eu lieu à Rosh Hashanah. Et puis d'un autre côté, il y a cette contradiction où il dit bien que tout le clan d'Israël a pris l'habitude durant ces 10 jours de Tshuva, de faire des mitzvot, de faire les mitzvot mieux qu'ils ne les faisaient jusque-là, avec même pas l'idée que désormais je vais toujours les faire comme ça. On sait très bien que c'est des chumrot qu'on prend pendant ces 10 jours-là. Alors il s'agit un peu de comprendre dans ce cas-là à quoi ça sert. Pourquoi ça sert et pourquoi tout le clan d'Israël fait ces choses-là? Alors ils font, je crois, expliquer que ce qui se passe, c'est pas qu'on est en train de faire des mitzvot qui viendraient s'ajouter à un compte de mitzvot, ce qui ne peut pas être le cas, comme on vient de l'expliquer longuement. Mais c'est en fait une façon de montrer qu'on a vraiment décidé de changer. C'est-à-dire ces mitzvot qu'on va faire différemment, qu'on va faire avec plus de zèle, qu'on va faire avec plus de simcha, plus de joie, cette joie qui est absolument fondamentale, puisque on a bien vu que juste avant Rosh Hashanah, à peu près, on a quand même lu Kitavo, avec toutes les clalotes dans lesquelles les clalotes sont annoncées comme ne venant pas sanctionner quelqu'un qui n'a pas fait les mitzvot. On parle de quelqu'un qui a fait les mitzvot. Quelqu'un, on ne parle pas de gens qui ont fait des averot, on parle de gens qui ont fait les mitzvot, mais le reproche qu'il leur est fait, et ce reproche, il est presque incompréhensible, parce que c'est un reproche, bon, on a l'impression, voilà, qu'est-ce qu'on dit dans ce reproche? Tu n'as pas servi Hachem dans la joie, dans l'abondance, etc. Ok, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Non. De ne pas avoir fait les choses avec joie, de ne pas les avoir faites avec zèle, c'est tellement grave que ça entraîne toutes ces clalotes-là. C'est un peu étonnant. Dans les clalotes de Bechukotai, on a l'impression que c'est des gens qui... Ça s'adresse à des gens qui ne font pas ce qu'il fallait faire. Ils ne font pas les mitzvot. Mais ici, on parle de gens qui font les mitzvot. Mais qui ne les font pas bien. Mais ce n'est pas qu'ils ne font pas bien la mitzvah, c'est-à-dire qu'ils ne font pas attention à tous les détails. Non. C'est des gens qui font les choses, mais ne les font pas avec joie. Et là, on a cette condition-là, fondamentale, de la joie. Si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire que de faire des mitzvot sans joie? Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce qu'était que la mitzvah. La mitzvah, c'est pas simplement un ordre qu'Hachem nous a donné. Fais ceci ou fais cela ou ne fais pas ceci, ben cela. En nous donnant des ordres, de faire certaines choses. Et en nous enseignant que ces choses qu'on nous demande de faire vont avoir un impact sur le monde. Le monde va être changé par nos actions. Changé spirituellement, mais et fondamentalement. Parce que c'est vrai que quand on jette un papier gras dans la nature, ça change bien l'équilibre du monde. Bien sûr que ça change l'équilibre du monde, mais de façon microscopique. Mais ici, les mitzvot, elles changent l'équilibre du monde, mais de façon macroscopique, de façon fondamentale. Et d'avoir reçu ces mitzvot, on a vu souvent que, je répète cela, que la mitzvah, telle qu'elle est écrite dans la Torah par exemple, le mot mitzvah se lit aussi bien mitzvah, mitzvah que mitzvah. Ça veut dire que quand j'ai une mitzvah devant moi, c'est une mitzvah durant laquelle je dois penser en permanence que cette mitzvah-là, je la fais parce qu'elle vient comme un ordre venant d'Hachem qui s'adresse à moi. Ça veut dire quelque part, c'est sûr que c'est un ordre d'Hachem, mais c'est un ordre qui s'adresse à quelqu'un qui est choisi par Hachem comme d'une certaine manière un partenaire. Et donc d'être partenaire avec Hachem, si ça ne nous met pas en joie, c'est qu'on n'a vraiment rien compris. C'est quelque chose peut-être d'effrayant, etc., mais il y a comme une joie énorme, un privilège fabuleux. Quand nous faisons la bracha, on dit bien, on ne dit pas simplement « Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher tziva otanu » de faire telle et telle chose. Non, d'abord on dit « Hashem kidishanu b'mitzvotav » Hashem nous a sanctifiés par ses mitzvot. Après, vient « Vetzivanu al mitzvat lulav, etrog, shofar, matzah, etc. » Mais d'abord il faut entendre et faire résonner en nous Kidshanu b'mitzvotav. En nous donnant des mitzvot, il nous a sanctifiés. Sanctifiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a séparés de tout le reste du monde et nous a attribué un rôle fondamental, pas parce qu'on était obligatoirement meilleur que les autres, mais parce qu'on a eu des ancêtres qui ont compris quelque chose et qui sont entrés dans une alliance avec Hachem, c'est-à-dire, ils sont entrés. Hachem les a fait entrer dans une alliance avec Hachem. Et cette alliance, elle est fondamentale. Et c'est de cette alliance qu'on parlait quand on dit « Zohar Abrit » dans les Tkiyot des Zichronot. La bracha Zohar Abrit, c'est le brit de la Hakeda, a priori, mais le brit de la Hakeda, c'est aussi tous les britotes, en fait. On est, à Kadosh Baruch Hu, à faire avec nous quelque chose d'incompréhensible, en fait. Faire un accord avec des créatures. Le créateur qui fait un accord avec les créatures. C'est tout à fait paradoxal, parce qu'un accord, ça se fait entre des gens ou entre des institutions, etc., qui ont des grandeurs semblables, même si elles sont peut-être pas exactement les mêmes, mais il faut que ça ait un sens. Eh bien oui, le sens, il est là, c'est qu'Hachem nous a sanctifiés par ses mitzvot. Et une fois qu'il nous a sanctifiés, il peut nous donner des ordres pour faire ceci ou cela, parce que, vu le rôle qu'il nous a attribué, alors nous pouvons faire ce qu'il nous demande de faire, et ça aura l'impact qu'il veut que les choses aient dans le monde, c'est qu'il nous donne une possibilité d'avoir un impact sur le monde. C'est des fois tellement fort que à Kadosh Baruch Hu, on dit qu'il y a Hashem Tzilcha, c'est-à-dire qu'Hashem est ton ombre. Si toi tu fais quelque chose, eh bien souvent, Hashem fait la même chose. Alors nous, on copie Hashem, on a une mitzvah, Ma'urachum, Ma'patarachum, et puis après lui-même, il nous copie aussi. Comme en particulier, il a copié Abraham Avinu. Quand Abraham Avinu a changé la nuit en jour, quand il est allé libérer Lot, Hashem a dit, tu as changé la nuit en jour, je ferai la même chose pour tes descendants. Et c'est comme ça qu'à Pessah, la nuit, au moment de la sortie d'Égypte, c'était au milieu de la nuit, mais on y voyait comme en plein jour. Donc on a l'impression ici qu'Hachem a copié Abraham Avinu. C'est sûrement lui qui l'a inspiré. Puis après, ça apparaît comme une façon de nous donner l'importance d'un partenaire. Et donc Yom Kippour, on arrive à Yom Kippour après avoir eu la possibilité fabuleuse finalement de modifier les choses. C'est-à-dire, voilà, il y a eu un jugement. Et même ce jugement-là, il n'est pas définitif parce que on a la possibilité de le changer. Et donc on arrive à Yom Kippour, a priori, on a toutes les chances de bien réussir à Yom Kippour, puisque Hachem nous a donné la possibilité de corriger ce qui n'était pas bon. Alors on arrive à ce jour de Yom Kippour. Alors Yom Kippour, lui, à la différence de Rosh Hashanah, c'est vraiment un jour dans lequel il s'est passé quelque chose. Le jour de Kippour est devenu Kippour, si vous voulez. Il est devenu Kippour parce que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu a cédé aux supplications de Moshe Rabbeinu, qui lui demandait de pardonner l'impardonnable, de pardonner le veau d'or. Et au départ, je ne connais pas du tout d'accord. Il a fallu que Moshe Rabbeinu s'y reprenne à plusieurs fois. Il remonte sur le Sinaï, etc. Et finalement, tout à la fin des derniers 40 jours, Hachem a accepté et il nous a donné, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, il a donné les deuxièmes louchot. Deuxième louchot. Des louchot dont Hachem lui-même a dit que sur ces louchot-là, il écrira la même chose que ce qu'il y avait sur les premières. Donc quelque part, Hachem nous propose, on recommence. Je vous redonne des louchot. C'est vrai que les louchot, les deuxièmes louchot, sont présentés comme cela. Ils sont présentés comme des louchot qui sont les petites sœurs des premières louchot. Je vais écrire la même chose. Alors, dans la Torah elle-même, il y a quand même une différence entre les unes et les autres. Dans la Torah elle-même, les premières louchot étaient des louchot qui étaient entièrement divines, c'est-à-dire le support des louchot. ce sur quoi Hachem a écrit dans Seret Adibrot, c'était fourni par Hachem. Dans les deuxièmes Luchot, il a demandé à Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu taille des Luchot. Et qu'il, les Luchot, c'est les hommes qui vont les présenter à l'écriture, en quelque sorte, à la gravure. Bon, ça fait déjà une différence. Je m'avais dit, je vais écrire la même chose que ce qu'il y avait écrit. Alors, là non plus, c'est pas exactement la même chose. Parce que c'est vrai qu'Hachem a écrit de nouveau la même chose que ce qui est écrit dans les premières. Mais comme vous savez, dans les premières Luchot, tout ce qui allait devenir par la suite Torah orale, tout ça était, si on peut parler comme ça, c'était dans la gravure de la Torah écrite, dans l'écriture de la Seret Adibrot des Luchot. Là-dedans, il y avait toute la Torah, en quelque sorte. Et les hommes, avec ses Luchot, ils n'avaient besoin que de lire, d'étudier directement le texte en question. Et ça ne demandait pas des gros efforts. On ne trouve pas d'ailleurs que, c'est encore bien avant, mais on ne trouve pas de Amal HaTorah chez Abraham Avinu. Par contre, dans les deuxièmes Luchot, ce qui était écrit, mais le reste n'était pas écrit, même de façon allusive, même de façon, quelle que soit la façon dont on pourrait le décrire, non. La Torah orale sera le fruit de gros efforts. Je dis où Amelim Batora. Il va falloir travailler très fort pour produire la Torah orale. Alors, on pourrait dire, c'est comme une punition, quoi. Au lieu de nous le donner tout fait, il faut qu'on va devoir travailler. Mais comme vous entendez bien, c'est vrai, tout ça c'est vrai, mais d'un autre côté, ça met les Bnei Israël en position de production de la Torah. Les Bnei Israël vont produire la Torah. Dans la Torah qui nous permet de faire les mitzvot que nous faisons, bon, c'est une Torah telle qu'elle a été écrite, enfin telle qu'elle a été pensée, enseignée. On a dû l'écrire pour des raisons techniques, parce que les Romains nous tuaient tellement de gens qu'on n'était pas sûr d'avoir une densité suffisante de maîtres pour assurer la transmission. Mais c'était fait pour rester oral, initialement. Et donc, c'est la production de nos maîtres. C'est la production des Chachamim. C'est la production des Tanaïm, des Amoraïm, des Geonim, des Rishonim, des Acharonim, etc. Donc c'est des productions humaines. Même si les gens sont inspirés, tout ce que vous voulez, bien sûr qu'ils sont aidés par un cosmo. Mais c'est la production humaine. Et par conséquent, les Bnei Israël apparaissent ici très clairement comme des partenaires de Kadosh Baruch Hu, y compris dans la Torah. Il y a même des situations dans lesquelles les Chachamim disent à Kadosh Baruch Hu, tu nous as donné la Torah, désormais c'est nous qui décidons, même si toi tu manifestes les choses, d'après toi, elles doivent se faire autrement. C'est nous qui décidons, nous qui sommes sur Terre et auxquels tu as donné la possibilité de décider. C'est nous qui décidons. C'est nous qui allons dire si le fou en question est pur ou il ne l'est pas, et ça n'est pas, c'est pas toi en quelque sorte. Tu peux faire toutes sortes de miracles ou indiquer que voilà, ta préférence c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, mais ça ne changera rien. Nous, on est majoritaire et on a décidé comme ça. Donc, on est des partenaires, mais des partenaires qui peuvent être très jaloux de leurs prérogatives. Tout ça, hein, ça nous a été donné ce jour-là, où Akadosh Baruch Hu a permis au clan Israël de survivre. Les Israël ont été condamnés à mort au moment du Vaudor. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je détruis ce peuple et je commence à nouveau avec toi. Comme vous savez, Moshe Rabbeinu a dit qu'il n'était pas candidat. Il a même joué gros en disant que si tu ne pardonnes pas au Bnei Israël, tu peux m'effacer de ton livre. Ouais, il faut pouvoir parler comme ça. C'est pas évident. Hachem a cédé. Il a fait ce que Moshe Rabbeinu lui a demandé. Alors, c'est vrai que le Gaon dit que c'était qu'un sursis, mais un sursis, ben, c'est la possibilité que la chose n'ait jamais lieu. Il est malheureusement tombé, ce sursis, mais c'était pas nécessaire. C'était, on aurait pu faire en sorte qu'il ne tombe pas. Et donc, ce jour-là est devenu un jour tout à fait particulier. Alors, les Rachamim disent que, par exemple, le mot Satan, Sintet Nun, en Gematria, c'est 364. Et 364, c'est 365 moins 1. C'est-à-dire que tous les jours vont de l'année vont par paire, sauf qu'il y a un jour qui n'a pas de paire. Il n'a pas de paire, Péri, oui. Il ne fait pas la paire avec quelque chose. Ce jour-là, le Satan n'a pas le droit d'être Mekatreg. Il ne peut pas, ce jour-là, attaquer. Il ne peut pas faire ce qu'il fait tout le reste du temps. Il ne peut pas. Ce jour-là, c'est Yom Kippour. Ce jour-là, il n'y a pas de Satan. Il n'a pas de pouvoir. C'est un jour particulier. Il y a une chita dans la Gemara, le Rabbi, qui dit qu'en fait, Yom Kippour est Mechaper, même si on ne fait pas de tshuva. C'est tellement fort que ça apporte la kapara, même si tu ne fais pas de tshuva. Bon, je vous rassure tout de suite, la halakha n'est pas comme ça, il faut faire tshuva. Mais pour qu'on comprenne jusqu'où ça va. C'est important de savoir qu'il y a une telle chita. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a un coup de pouce très sérieux de la part d'Hachem pour qu'on réussisse. Alors, on a déjà dit une grande partie de ce qui s'est fait dans la Seret Yemei Tshuva, en fait, de coup de pouce. Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à nos fautes. Quand il y a des fautes, il nous donne les moyens de corriger. Et encore faut-il vouloir corriger. Encore faut-il prendre conscience de ce qu'on a vraiment fait une faute, que la faute est importante. Parce que souvent, on se dit, oui, c'est pas tellement grave. C'est sûr qu'il y a toujours plus grave. Mais il faut prendre conscience que une faute est une faute. Elle doit être réparée. On peut pas passer outre, simplement, bon, ok, on regarde pas, on regarde derrière. Ça veut pas dire qu'Hachem est intéressé à nos fautes. Mais ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut, il dit voilà, les fautes sont là, et il faut que vous fassiez quelque chose pour réparer ces fautes. Alors, ce jour de Yom Kippour, où Hachem a pardonné, il a pardonné le passé, mais il s'est aussi occupé de nous donner des indications sur le futur, de nous aider pour le futur. De même que dans la Tshuva, il y a une partie passée et une partie future. Ben ici aussi, sur le passé, Hachem a pardonné, et quant au futur, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit à mon cher Rabbeinu, voilà, je t'ai donné les deuxièmes louchot. Et puis, je t'enseigne qu'on peut prier même quand on a fauté. Même si on n'a pas vraiment encore fait complètement tshuva. Mais on peut prier. Bien sûr, ça n'a pas le même impact que si on a fait tshuva. Mais on peut prier. On va voir exactement tout. Comment Hachem nous a enseigné cela? Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, je te montre quelque chose. Hachem, si on peut parler comme ça, c'est un peu anthropomorphique, mais bon, c'est les idées qui sont importantes. Hachem s'est mis un talit sur la tête. Et il a dit les shlosh esrei midot de Rachamim. Il a dit un texte, il a mentionné 13 mesures de tendresse, justement. 13 mesures de la tendresse qu'Hachem manifeste pour les Bnei Israël. Et il a dit à Moshe, quand ton peuple, là il lui parle, dit, c'est ton peuple, quand ton peuple va fauter, alors tu leur diras de faire les choses de la manière suivante. Suivante, de dire, en suivant la méthode que je viens de te montrer, je viens de te faire la démonstration. Tu désigneras quelqu'un qui sera un shaliar tzibour, qui va représenter le clan Israël, et qui va dire ces shlosh esrei midot. Il va dire ces 13 mesures de rachamim, c'est-à-dire de tendresse. Et moi, dit Hachem, et moi je pardonnerai. Alors ça, c'est tout à fait incompréhensible, quoi. Parce qu'on a, il faut pas se tromper, on n'est pas en train de parler d'un moulin à prière qu'il s'agit de tourner, quoi. Néanmoins, la prière de Yom Kippour est une prière qui tourne entièrement autour de ce texte des 13 midot de Rachamim. avant, et c'est resté par exemple dans le monde Sfarad, où on dit les Shloshes Remidot à toutes les tfilotes. Les Ashkenazim le disent seulement la veille au soir et à la Neila. Mais donc tout tourne autour des Shloshes Remidot, et d'une certaine manière, c'est logique, puisque c'est ça qu'Hachem a dit à Moshe, quand on a faute, quand on peut va fauter, voilà ce qu'il faut faire. Alors on le fait. Évidemment, comme on ne peut pas passer son temps à réciter toujours ces 13 choses, alors on les récite, même si on récite à toutes les prières, comme dans le Moussar Sfarad. Mais entre-temps, on a ajouté des piyutim, on a ajouté des poèmes, etc., qui parlent justement de la tendresse divine, de l'unité d'Hachem, etc. Pour faire le lien entre les différentes fois où on va réciter ces Shloshes Remidot. Maintenant, pour bien que ce soit clair, il faut remarquer que dans le Chazal qui rapporte ça, c'est pas marqué que il y aura un Shliach Tzibour qui va réciter les choses. Chez Yagidou, c'est marqué chez Yahasu, qu'ils feront les choses chez Samidot. Ça veut dire que pour qu'Hachem pardonne, c'est pas une question de récitation, c'est une question de conduite. C'est une conduite qui est sur le modèle de cette expression de la tendresse divine que sont les Shloshes Remi, les 13 mesures de tendresse en question. On nous dit, voilà, vous allez les dire, ce sont des mesures, des midot de Rachamim, d'Akadosh Baruch Hu, si on peut parler comme ça, mais vous, il ne s'agit pas de dire cela, il s'agit de vivre à ce niveau-là, se vivre avec ces midot de Chesed. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 13 mesures de Rachamim? Qu'est-ce qui est dit là? Alors, d'abord, ça s'appelle Midot de Rachamim. Une Mida, c'est une mesure. Mesure, comme on mesure 10 cm, etc. Sont des mesures de tendresse. Donc ça veut dire qu'on décrit la tendresse divine en utilisant 13 mots. En vérité, il y a deux versions de ce texte. Il y a une version qui est celle de Moshe Rabbeinu, de la Torah, c'est celle que nous on utilise. Mais il y a une deuxième version qui est une version du prophète Micha. Ces deux versions nous semblent assez différentes. Les Mekoubalim, les Kabbalistes disent qu'elles se correspondent. C'est la même chose. Il y a un très grand commentaire de la version du prophète Micha. Il s'appelle Tomer Dvora, le palmier de Dvora, qui est une œuvre d'un kabbaliste, un kabbaliste de la grande époque de Tzfat, qui est Rabbi Moshe Cordovero. Et ça a même été traduit en français aussi. Oui, je crois chez Verdier, si je ne me trompe pas. Dans ces mesures, là, alors, il faut bien comprendre, il ne s'agit pas de mesurer quoi que ce soit d'Hachem. C'est une façon de parler, de différentes façons de gouverner le monde, avec différentes façons d'exprimer la tendresse. La tendresse, même les humains, ont plusieurs façons d'exprimer leur tendresse. Akadosh Baruch Hu vous a dévoilé 13 Midot, le Chesed, et surtout le texte en question, il commence de la manière suivante, vous allez le reconnaître parce qu'il est souvent cité, ça commence Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanun, etc. Ça commence par deux fois le nom divin. Et la question qui se pose, c'est pourquoi avoir dit deux fois le nom divin, puisque c'est des mesures. Alors, on ne va pas dire, si on disait des mesures de quelque chose, on dirait un mètre, 30 centimètres, etc. Pourquoi tu répètes ? La mesure en question, c'est Hachem. Alors là, c'est là qu'il y a cette chose assez extraordinaire dont je vous parlais. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il l'a créé avec le tétragramme classique Yud Kei Vav Kei, et ce tétragramme-là, dont une lecture est que il est Mehavé Akol, c'est-à-dire il fait tout exister, tout ce qui existe n'existe que par lui, grâce à lui. Et il y a aussi, dans le tétragramme, il y a aussi Haya Ove Veiye, c'est-à-dire le verbe être au passé, au présent et au futur. Et donc Hachem est en dehors du temps, au-dessus du temps. Et tout ce qui est a été créé par Hachem. Mais la création en question, disent les commentateurs, c'était une création pour faire ce qu'Hachem nous a invités à faire. Et à partir du moment où on a fait cette grossière erreur du veau d'or, alors, on n'avait plus le droit d'exister. C'est pour ça. C'est pour ça que le clan Israël a été condamné à mort à ce moment-là. Qu'est-ce qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu ? Il lui a dit, il y a une mesure de tendresse qui dit que voilà, il y avait la tendresse dans la création du monde, et puis il y a la tendresse d'après la faute. Il reste, c'est le même nom divin. D'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu nous fait le chesed, le rachamim, la tendresse de se conduire à notre égard de la même manière après la faute qu'avant la faute. Donc ça veut dire que le deuxième nom divin, il prend en compte la possibilité de fauter. On n'est pas disqualifié complètement, on n'est pas condamné à mort, parce qu'il y a cette deuxième occurrence, si vous voulez, du nom divin, qui fait exister même quand on ne mérite pas d'exister en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut prier même dans un état, non seulement d'impureté, mais dans un état d'impureté spirituelle aussi. Et donc, Hachem a donné trois choses dans ce pardon. Les deuxièmes, l'ouchot, la possibilité de prier même après la faute. Et troisièmement, il a donné cette façon de prier quand on a fauté pour obtenir le pardon d'Hachem. Quand je vous ai dit, toute la prière de Kippour, elle tourne autour de cela. Elle tourne entièrement autour de la récitation de ce Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanun, etc. Ça, c'est le... C'est ça qui pour, et pourquoi est-ce que ça fonctionne ou quoi qui pour et qui pour, si vous voulez, justement parce que c'est le jour où Hachem a fait tout ce travail-là en faveur des Bnei Israël. Et on comprend que dans la foulée, d'une certaine manière, on peut comprendre la position de Rabbi qui disait que ça marche même quand on ne fait pas de Tshuva. Maintenant, il faut comprendre, pour revenir sur cette question, donc l'alakha, elle n'est pas comme ça. Le problème, c'est le suivant. On a dit que si on fait Tshuva, plus Yom Kippour, plus ce jour de Kippour, alors on récupère tout quelque part. On recommence un peu à zéro, on peut recommencer voilà, sans être handicapé par les bêtises qu'on a faites dans l'année d'avant. Ça c'est quand on fait Tshuva, Tshuva plus Yom Kippour. Et le problème c'est que aujourd'hui, si on fait Kippour, mais sans Tshuva, alors on a vu que si on ne fait pas Tshuva, qu'est-ce qui se passe? On tombe du côté des Rechaïm. C'est-à-dire que finalement, Kippour c'est extraordinaire, mais ça ne marche que avec la Tshuva. Sans la Tshuva, bon, ça veut dire que la Tshuva, elle est tellement importante que son absence, c'est l'équivalent de toutes les fautes. Parce qu'à cause de ça, on est complètement du mauvais côté, si elle est absente, la Tshuva. Donc c'est fondamental de bien se intégrer que Kippour, c'est formidable, mais ça nécessite la Tshuva. Concrètement, on a dit qu'il fallait d'abord prendre conscience de la faute. Alors comment est-ce qu'on prend conscience de la faute? D'abord, il faut y réfléchir. Et la réflexion, elle se fait pas obligatoirement seulement dans les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, mais elle peut se faire maintenant aussi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création du monde, si je ne me trompe pas. Puisque Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création de l'homme. C'est le 6e jour. Donc on est le 25 Elul. Le 25 Elul, c'est la création du monde. Mais bon, il faut réfléchir. Et dans cette réflexion, il doit prendre conscience. Il faut faire quelque chose qui nous permette de prendre de la distance avec la faute dont on sait. Voilà, j'ai compris que j'ai fait une faute et je veux prendre de la distance. Alors prendre de la distance, ça nécessite de mettre la faute d'une certaine manière à distance. Et notre façon de mettre les fautes à distance, eh bien c'est avec ce fameux vidouille. C'est avec cette confession, en réalité. Confession, je répète, qui n'a lieu que entre l'homme et Hachem. On ne fait pas de confession, hein, les gars, devant quelqu'un, devant un homme, etc. Ou une femme, peu importe, mais... La confession, elle est entre l'homme et Hachem. Et il dit, voilà, j'ai fait telle et telle faute. Et donc, je peux prendre la distance, j'ai mis à l'extérieur... Il faut exprimer, c'est ça le vidouille, exprimer la faute. Si quelqu'un n'a pas respecté Shabbat, il faut qu'il exprime la faute qu'il a faite concernant Shabbat. Pour pouvoir prendre de la distance, j'ai plus rien à voir avec cette chose-là, mais tant que c'est encore en moi, c'est difficile de prendre la distance avec quelque chose qui est en nous. Et donc, du coup, il y a une importance fondamentale de faire le vidouille. Et c'est pour ça que dans la tefila de Yom Kippour en particulier, bon, il y a un vidouille. Il y a un vidouille. Alors, en vérité, il y a plusieurs vidouilles qui sont faits. Il y a le Hacham d'Ubagano qui pourrait tout à fait suffire. Et puis après, on dit il y a le Al-Khet, etc. Mais tout ça, c'est des constructions pour être, bien sûr, de mettre à distance les fautes qu'on a faites. C'est une espèce de répertoire de fautes. C'est pas toujours le même. Tout le monde n'a pas tous les Nusraot, toutes les versions de la Tfila ne sont pas les mêmes ni dans le Al-Khet, etc. Peu importe, chacun. Et surtout, si on a fait une faute dont on est conscient, eh bien, il faut la dire. En français, évidemment. C'est sûr que lire le vidouille en hébreu, si on ne le comprend pas, tout le monde comprend que ça sert strictement à rien. Tu n'as pas confessé quoi que ce soit si tu as lu quelque chose dont tu ne sais pas ce que tu as lu. C'est sûr que si quelqu'un n'est pas vraiment à l'aise avec le texte, pas une question de lecture, mais une question de compréhension avec le texte du bidouille, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus, qu'il faut qu'il fasse son bidouille en français, ou dans une autre langue, peu importe, mais une langue dans laquelle il comprend ce qu'il dit. Ça résonne en lui, je dis vraiment quelque chose que je comprends. Sinon c'est comme un texte extérieur, qui ne nous touche pas. Je pense que ça, tout le monde le comprend. On n'a pas besoin de le dire, mais enfin, je me permets de le dire quand même. C'est sûr que c'est fondamental. Voilà, donc ça c'est Kippour. Alors, on verra, Imad Sachem, dans un prochain cours, que c'est vrai que Kippour, c'est extraordinaire. Mais dans la Torah, il y a ce qui court, point barre. Et après, il y a eu des ajouts sous forme de Hoshana Rabba. Hoshana Rabba, c'est encore un jour supplémentaire où on peut encore modifier les choses. Tout ça, ça a des sources, je pense, kabbalistiques. Et il y a même des sources chassidiques qui disent qu'on a encore le temps jusqu'à Hanouka. Et bon, ça c'est pour les chassidim, et l'autre c'est pour les kabbalistes. Nous, dans la Torah, c'est écrit qu'il faut faire tout ce travail-là à Yom Kippour. Voilà. Alors, je vous souhaite... qu'est-ce que je vous souhaite? Je vous souhaite Shana Tova, Ktiva Hatima Tova, et je ne sais plus... le prochain shiur... pour homme, il a lieu, je ne sais plus quand, qu'est-ce que vous dites ?
Le jeudi, jeudi 21, à 20h.
Voilà.
Donc, utilisez le lien Zoom du cours de Chumash.
Attendez, il n'y a pas un calque 14 avant ?
Et alors, pour ceux que ça concerne, il y a un chiour, voilà, de Gomorrah Bava Basra, voilà, le 14 à 20h, mais ça ne concerne pas tout le monde. Voilà.
Kol tov à tout le monde.
Merci
beaucoup. Merci. Ksiva vechasima tova. Shana tova. Kitiur. Kitiur. Thank you.